Bien, chers amis, le titre de cette conférence, sans vous en donner la raison, mais vous le verrez vous-même par la suite, ça s'intitulait initialement « L'amitié et l'entraide Maurice Blanchot » et ça va s'intituler désormais « L'amitié, la communauté, le manque Maurice Blanchot ».« L'amitié, la communauté, le manque Maurice Blanchot ». En fait, je sais gré à Dominique Bondu d'avoir évoqué certains de mes travaux, mais à vrai dire, je ne suis spécialiste de rien. Dans une autre vie, sous un autre nom, j'ai commis aux éditions du Seuil, dans la collection Le genre humain, des ouvrages collectifs sur des sujets pas très agréables, comme le droit antisémite de Vichy, jugé en Algérie, la pauvreté saisie par le droit et quelques autres choses de ce genre. Et ce qui me lie en fait à Blanchot, c'est une expérience tardive de lecture. J'ai toujours été un lecteur assez boulimique, mais c'est une expérience tardive, l'expérience d'une lecture violente, ou comme dirait Bataille, la lecture mais comme expérience intérieure. Comme choc mental et physique. Et cette expérience s'est produite sur un livre qui s'intitule « Le dernier homme ». Vous pouvez trouver en poche désormais. Et c'est une fiction. Elle date de 1957. Et à partir de cette lecture, j'ai publié chez Virgile un livre qui s'intitule en effet « Maurice Blanchot, premier témoin ». Qui est la version modifiée d'un texte que j'avais donné à Roger Laporte pour un numéro spécial de la Revue des sciences humaines qui est consacré à Maurice Blanchot. J'insiste sur cet aspect d'expérience de lecture parce que il y a des fictions, vous en avez tous l'expérience, qui nous emportent, qui nous galvanisent, qui jouent un rôle déterminant dans l'ensemble de notre vie. Elles ne sont pas toutes sur le même plan. Et moi, je citerai en désordre celles qui, pour moi, ont compté et m'ont conduit à écrire. C'est pas homogène, ce que je vais vous dire. André Dautel, Le pays où on n'arrive jamais. Edgar Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Les papiers de Jeffrey Aspern de Henry James. Ada ou l'ardeur de Nabokov. Le château de Kafka. Le bavard de Louis-René Desforêts. Les premiers mots de Bernard Noël. Animus et Anima de Claude-Louis Combet, L'arrière-pays d'Yves Bonnefoy. Je cite ces livres avec reconnaissance parce qu'ils m'ont aidé à vivre à des moments précis, comme ce fut le cas pour Le dernier homme. Et c'est donc par les fictions de Blanchot que j'en suis venu à lire passionnément et presque d'un seul coup toute son œuvre. Je dis bien lire, car Blanchot mérite d'être lu. Littéralement et dans tous les sens, comme disait Rimbaud. C'est-à-dire lu simplement, avec abandon et sans préjugés. Et c'est d'ailleurs après avoir lu dans l'entretien infini le chapitre intitulé « L'expérience limite », qui est le chapitre le plus saisissant de ce livre, de mon point de vue, que j'ai découvert l'espèce humaine de Robert Antelme. Et si c'est un homme de Primo Levi, et j'étais d'ailleurs amené aussi à publier sur ces deux livres en même temps, chez Gallimard, dans un livre de Robert Antelme, enfin, qui s'intitule « Robert Antelme, inédit et témoignage », un texte sur les deux livres que je viens de citer. La communauté inavouable, que vous pouvez trouver ici, aux éditions de Minuit, dans l'édition de Minuit, paru en 1983. Ce n'est pas le livre de Blanchot que je préfère, voyez-vous, disons parmi ces livres théoriques. Car ce qui est exposé l'est de façon, à mon avis, beaucoup plus impressionnante et même captivante dans l'entretien infini dont je viens de parler, qui est un livre qui date quand même de 1962, dans L'amitié, qui est mon livre préféré, Blanchot, 1971, et dans L'écriture du désastre, publié en 1980. Mais je comprends bien que dans ce livre, Maurice Blanchot ait voulu faire le point de façon presque synthétique sur quelques thèmes politiques, moraux, littéraires et même sociaux qui traversent son œuvre. Il le fait en réponse, ou plutôt en écho, à un texte important de Jean-Luc Nancy, repris ultérieurement chez Bourgois, et que vous connaissez peut-être sous le titre de « La communauté désœuvrée ». Je voudrais dire ensuite que mon rapport avec Blanchot, rapport, c'est un bien grand mot, le mot très relatif, car en dehors de sa famille et de quelques très rares amis, comme Emmanuel Lévinas, Blanchot a protégé sa solitude, préférant la correspondance à la rencontre. Je ne m'étendrai pas sur cet aspect de sa personne, que certains ont rapporté à une conception de l'absolu littéraire, ça n'est pas mon point de vue, mais tel est le cas. Ce rapport, donc, avec des guillemets, s'est établi par le truchement d'amis communs, d'abord Roger Laporte, un ami très cher, puis Monique Antelme et Louis-René Desforêts. Avec Monique, c'est dans le cadre du Comité international contre la répression, fondé par l'historien Jean-Jacques Marie, que j'avais eu l'occasion de solliciter quelquefois le soutien de Maurice Blanchot pour la libération d'écrivains emprisonnés, en particulier pour la libération du poète syrien Faraj Beragdar. Et c'est encore avec la complicité de Monique et par amitié pour Louis-René Desforêts que je publiais en 92, comme il a été dit tout à l'heure, aux éditions Ulysse fin de siècle, Une voix venue d'ailleurs, qui fut d'ailleurs le dernier livre de Blanchot et qui est repris chez Gallimard Collection Folio l'année de sa mort en 2002. L'année suivante. En 2002, revenant des États-Unis, Blanchot était encore dans ce monde, je sollicite la signature de Blanchot sur l'appel « Not in our name », pas en notre nom, qui était un appel provenant des États-Unis, qui était traduit ensuite en italien, en tchèque, en français, etc., contre l'intervention militaire des États-Unis en Irak. Je savais que cet appel toucherait aussitôt celui qui, vous le savez sans doute, fut le principal rédacteur du manifeste des 121 en 1960, manifeste intitulé « Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie ». Si bien que l'adhésion à « Not in our name » de la part de Blanchot fut certes le dernier acte politique public de Maurice Blanchot, mais se situait dans cette continuité-là. Vous le voyez, je ne fais que me souvenir et je me garde bien de restituer quoi que ce soit l'itinéraire biographique de Blanchot. Et pour ceux qui s'interrogent sur la biographie de Blanchot, j'indique le très beau livre de Christophe Bidan, Maurice Blanchot, partenaire invisible. Et comme Blanchot fut pour certains et pour certaines un compagnon épistolaire exceptionnellement présent et vigilant, la correspondance viendra au jour, progressivement. Vous avez déjà la correspondance avec Pierre Madol, qui est paru chez Gallimard il y a un an maintenant. Et à ce moment-là, les lecteurs, comme c'est toujours le cas avec les écrits posthumes, penseront en savoir bien plus sur l'homme qu'ils n'en su jamais sur lui-même. C'est ainsi, et dans le cas de Blanchot, je crois que ce sera particulièrement vérifié en ce qui concerne la question de la communauté, c'est-à-dire de sa présence au monde, paradoxale pour un homme dont l'isolement pouvait paraître quasiment monacal. En acceptant de donner cette conférence, j'avais une seule idée en vue. Permettre à de nouveaux lecteurs, par leur propre expérience de lecture, de partager avec tous, les lecteurs inconnus, passés, présents, à venir, l'emportement qui peut nous saisir devant certaines œuvres d'art qui méritent un tel emportement. Et je ne tiens pas à être cru sur parole, seule l'épreuve du texte nous importe, et c'est la raison pour laquelle, dans la suite de ce développement, je m'efforcerai de faire la part belle à quelques citations choisies de Maurice Blanchot. Alors, la communauté inavouable, pourquoi ces mots ? À la fin du petit livre qui porte ce titre, emprunté à un texte de Bataille, l'ami le plus proche avec Lévinas de Blanchot, Maurice Blanchot écrit ceci. La communauté est inavouable. Est-ce que cela veut dire qu'elle ne s'avoue pas ? Ou bien qu'elle est telle qu'il n'est pas d'aveu qui la révèle, puisque chaque fois qu'on a parlé de sa manière d'être, on pressent qu'on a saisi d'elle que ce qui l'a fait exister par défaut. Par défaut. S'agit-il de la vivre dans ce qui la rend contemporaine d'un passé qui n'a jamais pu être vécu ? Voyons l'exergue de ce même livre emprunté à Bataille. Bataille écrit « La communauté de ceux qui n'ont pas de communauté ». Donc c'est une définition négative. Cela nous renvoie à la solitude essentielle de chacun et surtout à l'absence d'au-delà dans la vie personnelle comme dans la vie commune. J'y reviendrai. Cela nous renvoie au fait que la relation à autrui, pour accéder à une certaine vérité du rapport, pour accéder à une responsabilité à l'égard d'autrui, devrait être perçue comme l'acceptation de la plus radicale étrangeté. Autrui, l'étranger par excellence. Aller vers l'autre, c'est accepter d'aller vers l'inconnu et non vers le même. C'est accepter l'inconnu comme tel, irréductible à toute fin, irréductible à toute finalité et plus encore, à toute fin dernière. Puisque la mort, elle-même inconnue pour soi-même, est assurément la seule fin que nous ayons en partage, en dépit du fait qu'elle soit réellement impartageable. Cette communauté négative nous unit et nous efface en même temps. Nous ne connaissons que la mort d'autrui. Nous la subissons en l'accompagnant. Et là est pour Blanchot le départ absolu de toute pensée sur la communauté. Et par conséquent, le fondement de toute réflexion véridique sur ce que nous appelons trop vite la vie. Alors, avouable, inavouable. Il n'est pas inutile d'invoquer le latin, même si Blanchot ne le fait pas dans ce livre, advocare, d'où vient aveu. C'est appeler auprès de soi, c'est appeler comme aide. Et même, selon Tite Livre, c'est invoquer les dieux. Alors, si l'on commence à lire rigoureusement le titre de l'ouvrage de Blanchot, In advocare, mettons qu'il s'agit d'une communauté de ceux à qui nul ne répond. Une communauté de ceux qui ne peuvent faire appel à quiconque. Une communauté de ceux à qui toute aide fait défaut. Une communauté sans recours au divin. Soit que cette communauté se refuse à invoquer les dieux, soit que les dieux invoqués s'obstinent à ne pas répondre, ce qui revient au même du point de vue de la solitude, de la déréliction. C'est une communauté du manque, une communauté négative. Ajoutons ce à quoi tout le monde pense en entendant « communauté inavouable », il y a aussi la dimension érotique, au sens de bataille, qui tient plus de l'angoisse que de la galéjade. Pour quiconque a lu Bataille, on me comprendra. Et cela nous renvoie à deux livres majeurs, je le rappelle, avec Lévinas, l'ami le plus proche toute sa vie de Blanchot, « L'érotisme et la part maudite », qui mérite également d'être lu, simplement lu. Blanchot nous y invite d'ailleurs dans la communauté inavouable. Alors la communauté négative. Le livre de Blanchot comporte deux parties. La première partie s'intitule « La communauté négative ». J'ai commencé à y faire allusion en faisant une sorte de glosse personnelle sur le titre. Et la seconde s'intitule « La communauté des amants ». Je parlerai essentiellement de la première partie, où se marque de façon la plus nette, dans l'œuvre de Blanchot, ce qui lie étroitement quatre dimensions de son œuvre, l'amitié, l'écriture, la révolution et le désir. Dimensions qui n'ont rien d'anecdotique, j'y reviendrai. Alors j'ai vu que notre amie Hélène Lenoir allait parler de la communauté des amants, et peut-être fera-t-elle quelques allusions à ce qui est au centre de cette deuxième partie du livre, qui est la lecture par Blanchot de « La maladie de la mort » de Marguerite Duras. Alors, Par opposition aux lubies médiatiques contemporaines, je dirais que l'œuvre de Blanchot révoque par avance tout reportage anecdotique. Elle n'a aucun lien avec des sornettes contemporaines dont on nous rebat les oreilles, telles que l'autofiction ou la docufiction. Quand Blanchot a-t-il ressenti le besoin de se raconter sur un plan biographique? Une seule fois, en 1994, dans un petit livre réédité chez Gallimard l'année de sa mort, et qui s'intitule « L'instant de ma mort ». Une seule fois. Ça fait 10 pages. Tout petit livre. On y apprend qu'en 1944, aligné contre un mur avec d'autres résistants, il ne doit sa survie qu'à un fait accidentel. La balle dirigée sur lui n'est pas partie. Tous sont morts sauf lui. Mort en sursis. Cela éclaire après coup, c'est le cas de le dire, bien des aspects de son œuvre, et en particulier la crise personnelle, qui est la sienne, entre les années 40 et 44, et qui aboutira plus tard, qui aboutit d'abord avec la publication d'Aminadab et de Thomas l'Obscur à l'auteur de fiction que l'on sait, et qui va s'amplifier, mais crise majeure à tous égards dont on va voir dans quelques éléments que je vais vous donner par la suite, la nature. Et quand Blanchot a-t-il ressenti le besoin de dire nous, en plusieurs circonstances, politiques, comme homme ordinaire, évitant chaque fois de le faire en tant qu'écrivain au nom de son œuvre, plusieurs fois, depuis la Libération jusqu'à son décès. D'ailleurs, ses écrits politiques ont été réunis par Michel Souria aux éditions Ligne en 2003. Je laisse de côté, éventuellement pour en parler de vive voix, le Blanchot d'avant-guerre, de la droite catholique extrême, interpellé d'une façon extrêmement intelligente par Jeffrey Mellman, qui a publié un livre là-dessus, et vous avez un livre récent de Jean-Luc Nancy sur Blanchot politique, que je vous invite à lire, qui, disons, règle définitivement la question. Ce qui est frappant, c'est le refus délibéré dans les fictions de Blanchot, comme dans tous les essais critiques et théoriques, de traiter de l'événementiel, ce que Mallarmé appelait l'universel reportage. Le refus de raconter ce qui se passe dans le monde, ce qui lui arrive, ce que font les autres. C'est-à-dire qu'il assigne à la littérature une autre tâche. Peut-être comme un musicien assignerait à la musique une autre tâche que celle de faire son œuvre de citoyen, de chef de famille, d'enfant, de frère, d'ami. Ça n'est pas un hors-lieu ni un hors-temps que la fiction de Blanchot, mais c'est l'affirmation d'une spécificité de la littérature qu'encore une fois on pourrait comparer à cet effort que la musique n'a cessé de faire depuis la période baroque, de s'individualiser comme musique au sein des arts, en dehors des référents sur lesquels les mots pourraient la rabattre. Et comme je vous l'ai dit, cela n'empêche qu'en tant qu'homme ordinaire, en tant que citoyen, Blanchot est présent, il répond quand il est sollicité, et parfois il se manifeste dans la rue ou indirectement, d'une façon ou d'une autre. Il a une vie publique, mais on ne peut pas en trouver la trace de façon anecdotique et événementielle dans l'œuvre écrite. Essayons d'y voir plus clair en regardant la table des matières de la communauté inavouable. Comme je vous l'ai dit, la première partie s'intitule « La communauté négative ». Alors on y lit, je lis les rubriques, « Communisme, communauté ». Puis on lit « L'exigence communautaire ». Deux points, Georges Bataille. Puis on lit le principe d'incomplétude, la mort d'autrui, communauté et écriture, le partage du secret, la communauté littéraire. Eh bien, j'ai choisi, je ne vais pas traiter de toutes ces questions, mais d'en sélectionner quelques-unes selon ma lecture. D'abord, le communisme. communauté communisme. Disons Blanchot, communisme, ce à quoi nous ne pouvons nous soustraire. Tiens. Cette possibilité qui est toujours engagée d'une manière ou d'une autre dans son impossibilité. Oui au communisme s'il dit que l'égalité est son fondement et qu'il n'y a pas de communauté tant que les besoins des hommes ne seront pas également satisfaits. Et il dit plus loin, satisfaire les besoins des hommes serait la moindre des choses, la tâche la plus minime. Étrange. Exigence en elle-même minime. Autrement dit, le communisme, je cite, suppose non pas une société parfaite, mais le principe d'une humanité transparente produite essentiellement par elle-même. Produite essentiellement par elle-même. Je crois que là est le centre de l'humanisme de Blanchot. Cependant, ajoute-t-il, cette exigence d'une immanence absolue a pour répondant la dissolution de tout ce qui empêcherait l'homme de se poser comme pure réalité individuelle. D'autant plus fermée, ajoute-t-il, qu'elle est ouverte à tous. L'individu s'affirme avec ses droits inaliénables, son refus d'avoir d'autre origine que soi. On peut éclairer ces phrases par l'amitié qui lie Blanchot à certains membres du groupe de la rue Saint-Benoît. Alors, ça s'appelle le groupe de la rue Saint-Benoît, c'est une cellule du Parti communiste fondée clandestinement d'abord à la fin de la guerre et puis publiquement après la libération. Qui a été exclu en bloc du PCF en 1949 avec le concours et le zèle actif de Georges Semprin et qui se composait... Alors il y a un livre sur qui mérite d'être lu, mais je ne sais pas pourquoi ça n'est pas paru chez un éditeur plus connu. Je ne connais pas l'auteur d'ailleurs. C'est Monique Antelme qui m'a envoyé ce livre quand il est paru, de Gérard Streif. Je crois que c'est un historien. C'est paru dans la collection Sileps, qui est un éditeur universitaire, mais assez confidentiel. Et je vous lis, parce qu'on n'a pas le temps, quelques mots de la quatrième de couverture. Un soir à la fin mai 49, sept amis sont attablés au café Bonaparte à Saint-Germain-des-Prés. Le titre du livre, c'est « Procès stalinien à Saint-Germain-des-Prés ». Ils sont attablés au café Bonaparte à Saint-Germain-des-Prés. Ils sortent de la réunion de la cellule du Parti communiste du quartier. Il y a là l'écrivain Marguerite Duras, Dionis Mascolo, homme d'édition, il travaillait chez Gallimard, Bernard Guillochon, ajusteur, Eugène Magnoni, journaliste à Ce Soir, Monique Régnier, qui deviendra Monique Antelme, la femme de Monique Antelme après la séparation entre Antelme et Marguerite Duras. Si vous avez lu La douleur, vous comprendrez ce que je veux dire. Rejoint bientôt par Robert Antelme et Georges Semprin. Alors, je ne vais pas... développer ce qui s'est passé cette fameuse année 49. Ce livre est assez atterrant, mais il faut se rappeler le contexte de l'époque. Je ne vais pas vous faire une conférence sur le stalinisme, mais du point de vue, en tout cas, qui nous occupe ici, c'est-à-dire de la littérature et de la pensée, ça a été une entreprise de décervelage, comme sans doute il n'y en a pas eu beaucoup depuis l'Inquisition ou des périodes de ce genre. Et là, ceux qui en ont fait les frais, c'est quand même pas n'importe qui. Je vais vous dire quelques mots de Dionis Mascolo tout à l'heure. Mais Robert Antelme, si vous lisez L'espèce humaine, je crois que son unique livre, mais quel livre ? Quel livre ? Bon, Marguerite Duras, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Et Blanchot, en fait, je dirais le retournement ou la conversion de Blanchot sur lui-même, la crise morale, littéraire de Blanchot dans les années 40-44 tourne sur plusieurs événements. L'anecdote 44, fusillé sans être fusillé, ça je vous l'ai dit, mais le plus important c'est la rencontre de Dionis Mascolo et de quelques autres, dont Edgar Morin aussi, mais surtout Dionis Mascolo. Avec l'amitié de bataille Lévinas, le deuxième grand événement intellectuel, c'est la rencontre de Dionis Mascolo. Alors, Dionis Mascolo, que dire ? Dionis Mascolo a publié un livre qui s'intitule le communisme, révolution et communication, ou la dialectique des valeurs et des besoins. Le sous-titre qui est le plus intéressant, dialectique des valeurs et des besoins, parce que Maskelow, contrairement à toute la doxa stalinienne de l'époque, se situe du point de vue du rapport entre les valeurs et les besoins. C'est-à-dire que ce n'est pas un matérialisme vulgaire, c'est un matérialisme qui s'interroge sur les valeurs. Alors c'est un gros livre, hein, ce livre fait 565 pages. Mais il y a une thèse centrale dans ce livre qui est exposée dans le prologue et qui dit beaucoup sur l'influence qu'il a pu exercer à ce moment-là, déjà pendant la guerre, dès 1942, sur Blanchot. Et voilà ce que dit dans l'introduction de son livre Maskelow. Il y a une thèse dans ce livre, c'est que le communisme est le mouvement de la satisfaction des besoins matériels. L'homme de besoin, l'homo necessitudinis, en est le fondement. Certes, ce mouvement est matérialiste et révolutionnaire, mais s'il en est ainsi, si l'entreprise communiste est l'entreprise de libération matérielle de tous les hommes qui sont traités ou qui se traitent eux-mêmes comme des choses, c'est-à-dire si c'est l'entreprise de libération de tous les hommes, nous devons admettre en même temps que cette libération n'est rien de moins que l'entreprise de création de l'humanité par elle-même. Cette création de la nature de l'homme, cette œuvre de libération, ce mouvement de satisfaction des besoins peuvent être aussi bien vus alors comme l'entreprise générale de vérification des valeurs. Il est impossible de reconnaître aucune valeur qui serait en coexistence avec un besoin non satisfait. Le mouvement communiste de la satisfaction des besoins matériels est donc une recherche de la vérité. Alors, je ne développe pas davantage, mais il importe de savoir que jusqu'à la fin... D'ailleurs, l'année de la mort de Dionis Maskelow, je crois que c'est en 1997, il parut aux éditions Fourbi un petit livre sur l'amitié de Dionis Maskelow, qui était d'ailleurs introduit par Blanchot, c'était un de ses derniers écrits, qui est un livre intéressant, une préface intéressante, parce qu'il interroge sa mémoire sur les circonstances dans lesquelles, chez Gallimard, justement, entre 42, autour de l'année 42-43, il rencontre Maskelow, et comment le lien s'opère entre eux, comment l'influence de Maskelow devient déterminante sur sa pensée politique et sociale. Alors, d'ailleurs, dans l'amitié, Blanchot s'approprie le livre de Maskelow que je viens de vous lire de la façon suivante, je cite. L'essentiel du marxisme serait, dans les rapports collectifs, de libérer l'homme des choses en prenant le parti des choses, en donnant en quelque sorte le pouvoir aux choses, c'est-à-dire à ce qui réduit l'homme à un être qu'utile, agissant, produisant, c'est-à-dire en excluant tout alibi moral. Mais l'essentiel du marxisme serait de donner à l'homme maîtrise sur la nature, sur ce qui est nature en lui. Tout autre moyen de libération par le recours d'espérance idéale ne ferait que prolonger son asservissement. L'homme de besoin, c'est à lui que le pouvoir doit être remis. L'homme de travail, c'est-à-dire non pas immédiatement l'homme, il n'est rien, il n'est que manque, négation, besoin, mais le travail lui-même, anonyme, impersonnel, et les choses produites par le travail. Il va de soi que tout homme, s'il veut bien à travers l'irréalité des valeurs voir ce qu'il est, est cet homme de besoin et doit s'assumer comme tel. Alors cela m'amène d'ami en ami à la question de l'exigence communautaire et de la discussion avec Bataille qui, elle, anticipe la période de la guerre. C'est une discussion qui commence dans les années 30. Si le rapport avec autrui cesse d'être le rapport du même avec le même, mais introduit l'autre comme irréductible et dans son égalité, toujours en dissymétrie par rapport à celui qu'il considère. C'est une toute autre forme de relation qui s'impose et qui impose une forme de société qu'on osera à peine nommer communauté. C'est lui qui écrit. Une autre forme de société qu'on osera à peine nommer communauté. L'exigence communautaire n'est pas une préfiguration de la société communiste, donc de ce dont nous venons de parler, l'exigence communautaire surgit à présent de tout ce qui nous fait défaut. Elle surgit du manque, de la défaillance, de la séparation même. Donc Blanchot évoque évidemment le communautarisme religieux ou le communautarisme fasciste, tout ce qui subordonne à la tyrannie, que ce soit au nom de la terre, du sang, du Dieu, de l'ethnie, de l'idéologie même, de l'autorité de l'un, de la théocratie, de la souveraineté de l'un. Ce dont il parle, anticipant sur la communauté des amants, c'est la nécessité de fonder l'entente entre les hommes sur la communauté du manque. C'est parce que la seule chose partageable est ce défaut, cette existence du besoin, avec sa traduction dans le domaine des valeurs, du sentiment du manque dans la vie collective, c'est parce que telle est la situation que la possibilité, si impossible qu'elle paraisse de prime abord, de constituer l'humanité par la réunion, par la communauté de ceux à qui tout manque, est possible. Paradoxe, mais paradoxe qui repose sur une réalité. Vous voyez donc comment l'articulation entre la vision mascolo du communisme et la vision, à travers de batailles, de ce qui fait défaut et du manque, comment ça s'articule. Alors, ce qu'il a en vue avec Bataille pourrait faire penser, alors c'est pas Blanchot qui le dit, mais à quelque chose qui a existé notamment en Angleterre et que Friedrich Engels connaissait bien, à l'origine même du mot communiste, qui n'est pas français mais anglais. Ça passe par Godwin Barnby, qui dans les années 1800, du milieu du 19e siècle, avait constitué une communautarian society, une société communautarienne ou communautaire, plutôt une société communautaire, qui était à la fois, qui anticipait sur ce que devrait être une société communiste, c'est-à-dire l'appropriation collective des moyens de production, mais qui en même temps se donnait un impératif de fraternité. C'est-à-dire ne dissociez pas les valeurs de la fraternité d'un but de réformation ou de révolution sociale. C'est un écho. Alors, c'est moi qui le dis. Je ne sais même pas si Blanchot s'est jamais intéressé au socialisme utopique de Owen et au premier communiste anglais, mais je me permets de faire ce rapport. Par contre, ce que lui nous dit, c'est ceci. Et ça renvoie à une sorte de mode de vie. Il nous dit autre forme de société que j'ose à peine nommer communauté, et il cite le groupe acéphale, 1936-39. C'est un groupe qui est constitué autour de Bataille, un peu secret, quelque chose de à la fois émouvant et naïf. Je ne peux pas m'étendre là-dessus. Il y a une personne qui est morte récemment, mais qui a écrit aux éditions Léo Cher. Il s'appelle Michel Koch, K-O-C-H. Le sacricide. Bon, j'ai rencontré Michel Koch quelques années avant sa mort. Je devais d'ailleurs publier ce livre et faute d'argent, j'ai pas pu le faire. Et c'est Léo Cher qui a publié ce livre. Il est intéressant parce que il raconte ce qu'il en était du groupe acéphale. Et c'est touchant parce que il y a quelque chose, je dirais, de très adolescent d'un côté, c'est-à-dire, vous imaginez les communautés d'adolescents autour d'un idéal, autour d'un mythe, autour d'une fiction, et en même temps d'extrêmement sérieux, parce qu'il en va de la mort et de la période dans laquelle Acéphale se constitue, qui est la période du totalitarisme et une période où le désespoir se mêle aux plus grands espoirs. Et il cite l'éphémère Contre-attaque, qui était une revue, il y a eu un manifeste. Ce qui est intéressant, c'est que le manifeste de Contre-attaque en 1935 est signé par Breton et Bataille, qui s'étaient séparés violemment après le premier manifeste du surréaliste, mais qui se retrouvent et qui écrivent à deux mains. C'est impossible de distinguer lequel des deux écrit quoi. Certains s'y sont essayés, c'est difficile. Et ce qui est alors d'autant plus curieux, c'est que les textes de Contre-attaque depuis, donc, vous voyez, 1935-36, il a fallu attendre l'an dernier pour que ce soit paru. Alors c'est une jeune femme qui s'appelle Isabella, ça me revient, Bacamigli, Isabella Bacamigli, qui a créé les éditions Ypsilon. Et il y a une préface intéressante de Michel Suria, qui, vous le savez, est le biographe de Bataille, qui éclaire. Et c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que ce manifeste de contre-attaque est un manifeste pour l'union des intellectuels révolutionnaires contre le fascisme. Vous voyez, 35-36. Bon. Et il cite aussi la Revue Internationale, 1953, qui est une revue qu'il voulait monter avec un Allemand, Uwe Johnson, et un Italien, et ça a capoté. Et également... une autre chose dont j'ai oublié la nature. Mais ce qui est, écoutez, il nous donne des exemples sur le plan du mode de vie de la communauté négative qui ont tous échoué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se sont dissous ou disparu de la circulation, à tel point, je vous l'ai dit, que contre-attaque, il faut attendre l'an dernier pour que quelqu'un s'intéresse à la republication de ça, ce qui est d'autant plus étonnant que ça fait quand même très longtemps que maintenant on glose sur Blanchot, Bataille, etc. Alors, je crois que cela s'explique aussi par le fait que, pour lui, la question de la communauté est inséparable des séparations et de la contestation. Il dit « J'énumère quelques éléments de notre histoire, le groupe, les groupes, le surréalisme, les multiples assemblages, c'est lui qui parle autour d'idées qui n'existent pas encore, le souvenir des soviets, le pressentiment de ce qu'est déjà le fascisme, le collège de sociologie ». Et il insiste, oui, il y a eu des exclusions, scissions nombreuses dans et hors des groupes, mais, ajoute-t-il, l'être cherche, non pas être reconnu, mais être contesté, parce que l'altérité porte en elle-même la crise et la contestation. Alors ça m'amène à revenir sur la question de la mort d'autrui. Pour un lecteur pressé, la question de la mort, centrale dans le premier récit de Blanchot, L'arrêt de mort, et finalement dans toute son œuvre, pourrait paraître obsessionnel chez Blanchot. Mais c'est au contraire une méditation qui, je l'avais suggéré, donne à la vie un sens dans le cadre de la finitude, dans le cadre de l'effacement, dans le cadre d'une vie sans au-delà et sans reste. C'est pourquoi l'athéisme radical de Blanchot n'est pas du cynisme, ni le nihilisme qu'on a prétendu lui attribuer à certains moments. Son athéisme, c'est la théologie de Bataille, a privative théologie, c'est-à-dire le manque, l'absence du Dieu, le Dieu qui ne répond pas, qui ouvre sur une relation à l'autre fondée sur la plus extrême attention et sur la constante sollicitude. Et en voici la raison. Je cite là un passage de l'Entretien infini. Le surréalisme, c'est à propos du surréalisme, est toujours un tiers dans l'amitié, un tiers absent par lequel passe et d'où vient ce rapport de tension et de passion qui oppose et efface les caractères, qui suscite et motive les initiatives et les attirances. Qui manque au surréalisme manque à l'amitié et s'exclut, fût-il le compagnon, le frère de toute possibilité de rencontre. Ce n'est pas au nom de l'amitié trahie que l'exigence en jeu frappe ceux qui se mettent en dehors du jeu. C'est cette exigence même qui, rendant possible ou impossible des rapports et des rapprochements, les rencontres et les échanges, se détermine sur le plan quotidien et les conduit jusqu'à une rigueur d'amitié, mais une amitié toujours révocable, parce qu'elle est toujours en deçà de ce qu'on peut demander. Le surréalisme, affirmation collective, pluralité étrange, il est difficile d'être plusieurs. Autrement dit, la communauté ne tisse pas le lien d'une autre vie, immortelle, inamovible, entre les sujets. Elle n'opère aucune transfiguration, car la mort elle-même est la véritable communauté des mortels. À quoi sert une telle communauté qui s'interdit de faire œuvre utile ? À quoi sert la communauté négative ? À rien, dit-il, sinon à rendre présent le service à autrui, jusqu'au bout, pour qu'autrui ne se perde pas solitairement. Fin de citation. La lecture de L'espèce humaine de Robert Antelme La fréquentation constante d'Anthelme jusqu'au décès de ces derniers ont joué un rôle majeur dans la vie de Blanchot. Le chapitre le plus important de l'entretien infini, intitulé « L'expérience limite », en témoigne amplement. Et j'en retire cette phrase, « La mort d'autrui est ce qui me met le plus radicalement en cause ». Et cela m'amène à un autre thème, communauté et écriture. J'ai parlé des amis proches, les plus proches, Lévinas, philosophe, Bataille, écrivain, difficile à classer. Est-ce que c'est un théoricien, un poète, un narrateur, absolument inclassable. Mais quelque part, Lévinas aussi, difficilement classable par les philosophes traditionnels. En 1978, Blanchot écrivit pour un collectif intitulé « Misère de la littérature », dans lequel il y avait d'ailleurs Philippe Lacoulabarthe, un avant-propos où l'on trouve cette déclaration étonnante. C'est d'abord une citation de Mallarmé. « Il n'est d'explosion que le livre ». Il n'est d'explosion que les livres. Un livre parmi tant d'autres, ou un livre renvoyant au libère unique, dernier, essentiel, le livre majuscule qui est toujours n'importe quel livre, déjà sans importance ou au-delà de l'importance. Explosion, un livre. Ce qui veut dire que le livre n'est pas ce rassemblement laborieux d'une totalité enfin obtenue dans l'œuvre, mais qu'il a pour être l'éclatement bruyant, silencieux, qui sans lui ne se produirait pas en nous, tandis qu'appartenant lui-même à l'être éclaté, débordé, hors de soi, il s'indique comme sa propre violence d'exclusion, le refus fulgurant du plausible, le dehors devient son éclat. Magnifique citation, je trouve, de Blanchot, qui situe... ce qu'est l'ambition, finalement, de la communauté d'écriture. L'écriture, dit-il, est un don de parole, un don en pure perte qui n'est jamais assuré d'être accueilli par quiconque. Mais dès lors qu'il n'y a pas d'autorité surplombante des livres saints, imposée comme autorité du livre, autorité de la communauté dans son échec même, nous avons partie liée avec l'écriture et la lecture de chacun. Une forme d'attention qui n'a rien d'autre à chercher que les mots derniers. Quels sont les mots derniers? Je le cite. Viens. Viens. Venez. Vous, toi, auquel ne saurait convenir l'ordre, la prière et l'attente. Viens. Viens. Venez. C'est dire que le livre, d'abord traversé par l'anonymat où se dissémine la parole, participant du grand murmure incessant des morts et des vivants, retournant nécessairement à l'anonymat, puis à l'effacement, puis à l'oubli, interpelle en même temps chacun, là où précisément tout lui fait défaut, et où par là même, il fait partie de la communauté humaine. La communauté des lecteurs est fondée, ce qui bien que le livre devient, en quelque sorte, l'expression par excellence de la communauté inavouable, en dépit du fait que les lecteurs sont des lecteurs silencieux, qui la plupart du temps ne se connaissent pas, ne se réunissent pas comme dans cette salle aujourd'hui. La communauté des lecteurs, dit-il, celui pour qui j'écris, c'est celui qu'on ne peut connaître, c'est l'inconnu, mais je vais vers lui. Il n'y a pas d'ego scriptor, il n'y a pas de moi j'écris, il n'y a pas de moi écrivant. L'anonymat du livre, d'où provient toute parole et où elle retourne, institue aussi une communauté négative, celle de ceux qui ne se connaissant pas, sont liés en silence par la lecture. Cette communication majeure est aussi communication avec l'impossible, écrit-il. L'impossible et l'inconnu sont le véritable horizon de toute littérature. Il n'y a donc pas lieu de se demander s'il faut être sincère ou véridique, nous dit Blanchot, car, je cite, « l'écrivain se représente par avance l'absence de livre, l'infini de l'abandon ». Mais la littérature est aussi transgression. Alors, il y a ses écrits sur Lautréamont et Sade, et ce qu'il dit aussi de Saint-Just. Là-dessus, je dirais simplement cette citation de l'amitié. La littérature est peut-être essentiellement pouvoir de contestation. contestation du pouvoir établi, contestation de ce qui est, contestation du langage et des formes du langage littéraire, et enfin contestation d'elle-même comme pouvoir. Sans cesse, elle travaille contre les limites qu'elle contribue à fixer, et quand ces limites, indéfiniment reculées, disparaissent enfin dans le savoir et le bonheur d'une totalité réellement ou idéalement accomplie, alors sa force de transgression se fait plus dénonciatrice, car c'est l'illimité même devenue pour elle une limite qu'elle dénonce par l'affirmation neutre qui parle en elle, parlant toujours au-delà. C'est en ce sens que toute littérature importante nous apparaît comme une littérature d'aurore terminale. Dans sa nuit veille le désastre, mais en elle aussi toujours se préserve une disponibilité pour quiconque. Et cela me mène à l'amitié. L'amitié jusque dans l'oubli, écrit Blanchot. Tout ce qui précède dans ce que j'ai tenté de ramasser en quelques paragraphes ici, évoque le secours ou le concours de l'amitié. J'ai cité des noms, c'est pour ça que j'ai commencé aussi, y compris pour moi-même, de parler des circonstances personnelles dans lesquelles j'étais devenu lecteur de Blanchot. Donc tout évoque le secours et le concours de l'amitié. Est-ce que cette forme de communauté fut-elle réduite à deux ou à l'association de plusieurs dualités? On peut imaginer des séries de deux, hein, des séries amicales. On serait assez proche de Fourier. Est-ce qu'elle est protégée de ce qui nie la communauté? C'est-à-dire, est-ce que l'amitié est protégée du manque? Est-elle protégée de l'absence, de la séparation? Est-elle protégée de la perte, de l'incommunicabilité? Chacun de vous connaît déjà la réponse, mélancolique. Mais il en va autrement de la mélancolie et du sentiment de perte si on introduit dans le vif même de l'amitié une réflexion nouvelle sur le respect de ce qui fonde entre moi et autrui une distance infinie que l'amitié respecte et franchit en même temps. Et je terminerai en vous lisant cet extrait du livre qui porte ce titre, L'amitié, qui d'ailleurs très curieusement commence par l'évocation des peintures de Lascaux et de la naissance de l'art. Je vous laisse découvrir ce livre. Enfin, tout, à part ce premier chapitre, tout le reste concerne l'amitié, les amis. Et le livre se termine de façon bouleversante par un passage entièrement en italique, qui est en fait, qui a été écrit après la mort de son ami Georges Bataille. Je termine en vous lisant ces deux extraits. De cet ami, comment accepter de parler? Ni pour l'éloge, ni dans l'intérêt de quelques vérités. Les traits de son caractère, les formes de son existence, les épisodes de sa vie, même en accord avec la recherche dont il s'est senti responsable, n'appartiennent à personne. Il n'y a pas de témoin. Les plus proches ne disent ou ne savent dire que ce qui leur fut proche, et non le lointain qui s'affirma en cette proximité. Et le lointain cesse dès que cesse la présence. C'est vainement que nous prétendons maintenir par nos paroles, par nos écrits, ce qui s'absente. Vainement que nous lui offrons l'attrait de nos souvenirs et une sorte de figure encore, le bonheur de demeurer au jour, la vie prolongée d'une apparence, mais ne cherchons qu'à combler un vide. Nous ne supportons pas la douleur, l'affirmation de ce vide. Qui accepterait d'en accueillir l'insignifiance, insignifiance si démesurée que nous n'avons aucune mémoire capable de la contenir et qu'il nous faudrait nous-mêmes déjà glisser dans l'oubli pour l'apporter. Le temps de ce glissement jusqu'à l'énigme qu'elle représente, tout ce que nous disons ne tend qu'à voiler l'unique affirmation, que tout doit s'effacer et que nous ne pouvons rester fidèles qu'en veillant sur ce mouvement qui s'efface, auquel quelque chose en nous qui rejette le souvenir appartient déjà. Nous devons renoncer à connaître ceux à qui nous lie quelque chose d'essentiel. Je veux dire, nous devons les accueillir dans le rapport avec l'inconnu où ils nous accueillent, nous aussi, dans notre éloignement. L'amitié, ce rapport sans dépendance, sans épisode, où entre cependant toute la simplicité de la vie, passe par la reconnaissance de l'étrangeté commune, qui ne nous permet pas de parler de nos amis, mais seulement de leur parler. Non pas d'en faire un thème de conversation, mais le mouvement de l'entente, où, en nous parlant, ils réservent, même dans la plus grande familiarité, la distance infinie, cette séparation fondamentale, à partir de laquelle ce qui sépare devient un vrai rapport. Ici, la discrétion n'est pas dans le simple refus de faire état de confidence, comme cela serait grossier, même d'y songer. Mais elle est dans l'intervalle, le pur intervalle qui, de moi à cet autrui qui est un ami, mesure tout ce qu'il y a entre nous. L'interruption d'être qui ne m'autorise jamais à disposer de lui, ni de mon savoir de lui, fût-ce pour le louer, et qui, loin d'empêcher toute communication, nous rapporte l'un à l'autre dans la différence et parfois le silence de la parole. Il est vrai que cette discrétion, à un certain moment, c'est la fissure de la mort. Je pourrais m'imaginer qu'en un sens, rien n'a changé dans ce secret entre nous capable de prendre place sans l'interrompre. Il y avait déjà du temps où nous étions en présence l'un de l'autre, cette présence imminente, quoique tacite, de la discrétion finale. Et c'est à partir de cela que s'affirmait calmement la précaution des paroles amicales, paroles d'une rive à l'autre rive, paroles répondant à quelqu'un qui parle de l'autre bord et qui voudrait être entendu dans notre vie, avec la démesure du mouvement de mourir. Et pourtant, quand vient l'événement même, il apporte ce changement, non pas l'approfondissement de la séparation, mais curieusement son effacement, non pas l'élargissement de la césure, mais son nivellement, et la dissipation de ce vide entre nous où jadis se développait la franchise d'une relation sans histoire. De sorte qu'à présent, ce qui nous fut proche, non seulement a cessé de s'approcher, mais a perdu jusqu'à la vérité du lointain qui lui appartenait. Ainsi, la mort, elle a cette fausse vertu de paraître rendre à l'intimité ceux qu'ont divisé les plus graves différends. C'est qu'avec elle disparaît tout ce qui sépare. Ce qui sépare, ce qui met authentiquement en rapport, l'abîme même des rapports, où se tient avec simplicité l'entente maintenue de l'affirmation amicale. Nous ne devons pas, par des artifices, faire semblant de poursuivre un dialogue. Ce qui s'est détourné de nous, nous détourne aussi de cette part qui fut notre présence et de ses prétentions. Il nous faut apprendre que quand la parole se tait, une parole qui, durant des années, s'offrit à une exigence sans égard, passionnément, ce n'est pas seulement cette parole exigeante qui a cessé, c'est le silence qu'elle rendait possible et d'où elle revenait selon une insensible pente vers l'inquiétude du temps. Sans doute, nous pourrions encore parcourir les mêmes chemins. Nous pourrions laisser venir des images, en appeler à une absence que nous nous figurerions par une consolation mensongère. Nous pouvons en un mot, nous souvenir, mais la pensée, c'est qu'on ne se souvient pas. Sans mémoire, sans pensée, elle lutte déjà dans l'invisible où tout retombe à l'indifférence. C'est là la profonde douleur, et c'est là qu'on accompagne l'amitié dans l'oubli.